Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et je te propose aujourd'hui un épisode hors série, un format que j'affectionne beaucoup pour parler amitié et pop culture. Et pour l'occasion, je reçois Alexandre Laurent, réalisateur pour le petit écran. Il a notamment signé Le Bazar de la Charité, sorti sur TF1 il y a quelques temps et qui est maintenant disponible sur Netflix. J'ai rencontré Alexandre lors de la projection presse de sa nouvelle série appelée Les Combattantes, série qui entre dans la collection du Bazar de la Charité. On retrouve les mêmes actrices, Julie Debona, Camille Lou et Audrey Fleurot, qui pour cette série ont même été rejoints par Sophia Essaïdi. Alors Les Combattantes, qu'est-ce que c'est ? C'est une fiction qui se déroule au tout début de la Première Guerre mondiale dans un village de l'Est de la France. On suit le parcours de quatre femmes que la guerre va littéralement transformer. Les deux premiers épisodes de la série vont être diffusés dans quelques jours, pour être exact, le 19 septembre. Et j'ai eu l'occasion de me rendre une journée sur le tournage dans les Vosges. À ce moment-là, Alexandre m'a dit que ces quatre femmes allaient être unies par un lien encore plus fort que l'amitié, plus fort que tout. L'occasion donc de parler ensemble des fondations de la série, du tournage, de l'ambiance dans l'équipe et puis de ses inspirations en tant que réalisateur. Alors j'espère que cet épisode un peu particulier va te plaire. Tu vas l'entendre, il y a parfois un petit peu de langue de bois puisqu'il ne pouvait pas tout dire pour éviter de spoiler la série. Et puis moi sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can't count on me like one, two, three, I'll be there.
You can count on me cause I can't count on you. Et à quoi ça sert les amis? Si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment.
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami.
Bonjour Alexandre Laurent, vous êtes le réalisateur de la nouvelle série TF1 Les Combattantes. Merci d'être avec moi dans Friendship. Pour commencer, est-ce que vous pouvez juste dire deux petits mots pour vous présenter, s'il vous plaît ?
Donc, je m'appelle Alexandre Laurent, je suis donc réalisateur. Voilà. Je suis très content de vous présenter notre nouvelle série Les Combattantes, qui serait la suite d'une collection qu'on a lancée avec le Bazar de la Charité.
Et alors, du coup, vous parlez du Bazar de la Charité, vous partez là avec Les Combattantes sur, avec la même équipe d'actrices. Camille Lou en a parlé en conférence de presse en disant qu'elle avait accepté le projet directement parce que vous avez réussi à créer une famille, un lien vraiment entre ces filles et vous et l'équipe. Comment, c'est quoi votre secret, c'est quoi votre talent ?
Ouais, c'est pas un secret et un talent, ça c'est les autres qui peuvent vous le dire. C'est que moi j'ai besoin de travailler en confiance. Et en famille, donc dans le travail, je crée un climat de confiance. Peut-être familial quand on fait plusieurs projets ensemble. C'est vrai que Julie, c'est notre troisième série ensemble. On se connaît très bien, voilà, nos qualités, nos défauts, nos peurs, là où on veut aller, là où on a peur d'aller. Et c'est vrai que là, ce qui était chouette sur les combattantes, c'est que cette formule se reproduisait avec, avec Audrey et Camille, voilà, avec qui on venait de faire les combattantes, le bazar de la charité, pardon. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tout de suite ce rapport de confiance et on gagne du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps où on se renifle, où on se recherche. Il y a tout de suite une confiance qui est établie, une confiance, un dialogue, où on n'a pas peur de dire d'accord, pas d'accord.
Et c'est une relation qui est uniquement professionnelle ou il y a quand même un truc un peu plus humain derrière, vous travaillez avec elle parce que vous ne verriez pas travailler avec d'autres?
Ah, c'est sûr que si ça s'était mal passé entre nous, humainement, on ne serait pas repartis ensemble. Je pense qu'aucun n'aurait eu envie de se réengager sur un tel projet avant même qu'il ne soit écrit en fait. C'est vrai qu'on a terminé le tournage du bazar, c'était une séquence entre, bah, c'était la fin, la dernière séquence entre Julie et Camille. Je me rappelle qu'on était en larmes. Ému d'avoir amené le projet à bien et ému de se quitter. Donc là, il y avait, bah, quand on est ému de se quitter, il y avait aussi la grande joie de se retrouver. Non, non, c'est vraiment, quand elle dit que c'est retrouver une famille, c'est que c'est vraiment le cas. On est content d'être en famille. Ouais.
Et comment est-ce qu'on intègre cette quatrième fille au projet avec, avec le personnage de Sophia?
Un casting, des réflexions. Et puis, on s'est assez vite orienté vers Sophia. Moi, je l'ai rencontrée, on a discuté. Et on se rend compte tout de suite que c'est quelqu'un de sain, de simple et de bosseur. Et que ça passera avec les autres, en fait. On se rencarte toujours un petit peu sur les acteurs, comme les acteurs le font avec leurs partenaires ou avec les réalisateurs. Mmh. Voilà, elle avait bonne presse, comme on dit. Et elle s'est tout de suite fondue. C'est quelqu'un de super simple, très bosseur, attentionné. C'est une vraie belle rencontre aussi.
Et comment ça s'est passé justement sur le tournage entre elles, avec l'équipe, entre vous? Vous dites à la fin du bazar de la charité que tout le monde était en pleurs. Là, comment ça s'est passé la fin de tournage? Un tournage qui a duré quand même très longtemps.
Alors, j'ai eu moins d'émotions.
Parce que vous saviez que vous alliez repartir?
Non, pas du tout. Moins d'émotions parce que, ayant participé à l'écriture, ce projet, le bazar, ça m'a pris 1 an et demi. Là, quand j'ai commencé le projet, c'était il y a 2 ans et demi. Ma grand-mère était encore en vie, le Covid c'était en Chine. Mon fils qui a 2 ans et demi n'était pas né, enfin, il s'est passé beaucoup de choses et je savais que les étapes allaient être longues. Donc en fait je me suis programmé pour que ça dure 2 ans et demi, ben, vraiment, hein, ouais, dans oui. Le cerveau, je savais qu'après l'image, il allait avoir, enfin, après le tournage, il allait avoir le montage, qu'il y avait encore plein d'étapes fondatrices.
Ouais, en la fait, dernière et... scène c'était pas la fin quoi.
C'est ça, Oui, puis on n'a pas terminé avec une scène ultra émotionnelle entre les deux. C'était tout aussi plaisant, tout aussi fort à fabriquer, vraiment. C'est pas que c'était moins bien, moins... Mais ouais, quand j'ai terminé le tournage, je sais qu'il me reste encore de longs mois de post-prod, de montage. Et on a terminé le tournage avec toute l'équipe et il nous restait une journée. Ça aussi, ça a un peu gâché l'émotion, enfin cassé l'émotion plutôt. C'est qu'une semaine après la fin du tournage avec toute l'équipe, c'est-à-dire tous les comédiens, toute l'équipe technique, il nous restait une journée en production virtuelle. Avec les scènes d'avion, en fait, où on était en équipe réduite. Donc, on a dit au revoir à une partie de l'équipe, mais pas à toutes. Et moi, dans ma tête, j'étais encore en tournage.
Ouais, fallait encore finir, fallait.
Oui, donc en fait, ça a été aussi un atterrissage, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'on a terminé avec des scènes d'avion.
Ouais.
Et puis, parce qu'il restait un gros, gros travail derrière.
Est-ce qu'il y a éventuellement une projection en équipe, justement, pour créer cette émotion-là? Vous l'avez eu, vous l'avez pas eu encore?
Non, aujourd'hui, vous êtes vraiment les premiers.
Quelle odeur!
Pour nous. Il y a une projo encore la semaine prochaine dans le Grand Est. Ça c'est, j'adore, c'est les projets en région avec le public de là-bas, les gens qui ont bossé, c'est toujours super chaleureux, c'est chouette.
Ouais.
Voilà, montrer à tous les techniciens qui ont bossé, qui sont acharnés. C'est vrai que j'entends beaucoup parler des coûts de la série, où on dit qu'elle a été chère, il parlait du chiffre tout à l'heure, 20 millions d'euros le budget. C'est sûr qu'il a fallu beaucoup d'argent pour pouvoir faire cette série, mais il y a aussi, c'est aussi une série passion. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont aussi investi de leur temps, de leur passion, peut-être plus qu'à l'accoutumée pour faire exister ce projet. C'est que tout le monde s'est acharné. C'est un projet où si c'est un bateau, on embarque à bord, on a envie d'être à fond tout le temps.
Pour parler des personnages, c'est vous qui avez réalisé la série. Comment est-ce qu'on écrit? Alors, je sais pas, c'est vous aussi qui étiez à l'écriture?
Alors, j'ai pas inventé l'histoire. La personne qui a inventé l'histoire, c'est une auteure qui s'appelle Cécile Lorne, voilà, qui Iris a rencontré, avec qui elle a développé et proposé le concept à la chaîne. Ensuite, il y a quelqu'un qui est venu l'aider, Camille Trainer.
Ouais.
Voilà, et moi, je suis arrivé au moment où il y avait les arches. Donc, c'est-à-dire, elles avaient inventé l'histoire. Dans les grandes lignes de chacun des 4 personnages. Et moi, je suis arrivé au moment où on crée ce qu'on appelle des bullet points, c'est-à-dire des actions par personnage sans les mélanger entre elles. Voilà, et là, on a inventé des persos, diminué certains, puis après, toute l'étape de tressage, voilà, et de séquencier. Ça me permettait d'avoir le nez dedans, amener des idées. Peut-être s'il y a des choses qui me parlaient un peu moins, de pouvoir en discuter avec elle, qu'elle m'explique là où elle voulait aller. Et peut-être moi leur amener des idées, peut-être elle me convaincre que c'était la bonne direction. Voilà, c'était pour être là dès le départ et amener la série vers là où on avait envie de l'emmener tous ensemble. Et surtout, ça a permis de faire cette série en 2 ans et demi. L'idée, c'est que si j'étais présent pendant les étapes d'écriture, je n'avais pas besoin de scénario pour faire du casting et partir en repérage. Parce qu'en vrai, on s'est dit qu'on voulait le faire en 2 ans et que le Covid, on a pris 5 mois de retard. On aura mis 2 ans et demi à la livrer. Mais il y a 2 ans et demi, il y avait juste des arches. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de séquencier.
Et là justement, parlez-moi du coup de ces 4 personnages, quel lien existe entre elles? Alors je sais qu'on peut pas tout dire, nous on a vu que les 2 premiers épisodes, même s'il y a déjà des choses qui se dessinent entre elles. Qu'est-ce que c'est comme lien qui les unit? Comment est-ce que vous avez réussi justement à faire du détail pour les humaniser, pour faire aussi qu'elles se retrouvent parfois dans l'histoire et qu'elles soient pas chacune de leur côté à Saint-Paulin?
Il y a un fait qui les rapproche toutes, c'est qu'elles subissent toute la guerre. C'est-à-dire que la France rentre en guerre en août 14, tout le pays est fauché, ça s'accélère et on rentre dans une guerre mondiale. Donc elles subissent toutes la même chose, donc elles sont réunies par ce drame. Voilà. Là où elles vont se rejoindre, c'est que ces 4 personnes, c'est une série féministe, mais je trouve aussi que ça va au-delà du féminisme, on parle d'humanité. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait face à l'horreur et comment on s'entraide. C'est là où je trouve que la série est touchante. Et va loin, c'est qu'on est vraiment dans des personnages qui donnent d'eux-mêmes le don de soi pour aider son prochain.
Et puis on a rarement des personnages féminins qui sont écrits chacune avec leurs caractéristiques et qui se créent pas le chignon, j'ai envie de dire. Aussi, c'est peut-être cet aspect-là de la Première Guerre mondiale qui donne cet aspect où elles ont chacune leur développement et qui sont pas dans le cliché de ce qu'on voit d'habitude.
Oui, mais c'est ce qui s'est passé en vrai aussi. Et c'était l'envie d'Iris et de Cécile de rendre hommage à ces femmes de cette époque-là, qui, juste avant la guerre, étaient à 2 doigts d'avoir le droit de vote et qui, finalement, l'ont eu qu'en 44, alors qu'elles n'ont pas arrêté de faire tourner le pays et l'économie pendant 4 ans, mais pour que, enfin, je fais des gros raccourcis, mais que les hommes puissent vivre leur deuil en rentrant de la guerre parce que blessés, mutilés, victimes d'horreur, elles ont laissé la place qu'elles avaient prise pendant 4 ans et elles n'ont pas essayé de prendre plus. Enfin, prendre plus, je reparle du droit de vote. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de cette époque, ce fait m'avait marqué.
Racontez-moi un peu, alors pas la suite de la série, de ce qu'on n'a pas encore vu, mais justement, qu'est-ce qui va les unir? Alors, il y a la guerre, évidemment, mais qu'est-ce qui va se créer entre elles? C'est de la sororité, c'est de l'amitié, c'est plus un truc familial? Ça ressemble à quoi, cette relation qui évolue?
Le premier mot que vous avez employé, on l'utilisait beaucoup pendant le tournage. Ouais. Je l'ai appris d'ailleurs pendant le tournage. Sororité, voilà.
Très bien.
C'est vrai que les hommes étant absents, elles se retrouvaient entre elles et... Encore une fois, c'est de l'entraide, c'est faire tourner le pays ensemble, devoir découvrir de nouvelles tâches ensemble, parce que les hommes ont déserté et sont sur le front. J'en dirais le mot humanité, parce qu'elles doivent s'unir pour faire face. Enfin, j'insiste là-dessus, hein, mais... Et c'est en ça que je trouve que c'est pas un film... Évidemment, c'est dramatique parce que c'est la guerre, mais on aurait pu basculer dans l'horreur, dans la complaisance de la guerre, du sang. Et ce qui ressort pour moi de cette série, encore une fois, c'est l'humanité, la force de ces 4 femmes. Oui, les liens de Marguerite et Caroline, on voit qu'elles sont connues une époque, parce que ça figure, mais ça pareil, je pense qu'il ne faut pas le dire, parce qu'on le découvre fin d'épisode 1, donc c'est compliqué.
Plus on avançait dans l'interview, plus je sentais qu'Alexandre se retenait de peur de trop en dire. Je tenais vraiment à l'interroger sur le lien humain qui unit les 4 femmes de la série au-delà de la guerre. Alors oui, il ne pouvait pas tout dire par risque de spoiler la suite et la fin même de la série. Donc il s'est retenu. Donc voilà, pour l'instant, tu l'entends, il était un petit peu sur ses gardes. Bah parce qu'en fait, moi, je me souviens quand je vous ai rencontré dans les Vosges sur le tournage, quand je vous ai parlé justement je vous ai posé la question qu'est-ce qui allait les unir et vous m'avez dit, ah mais c'est quelque chose de plus fort que tout. En fait, je me rappelle que vous avez eu ces mots-là en disant, mais aussi sûrement lié à la guerre. Et donc c'est pour ça
moi, vraiment ça. C'est elles donnent de leur personne pour faire face à l'horreur. Enfin, sauf que comme on a dû faire face au Covid, comme en Ukraine, les gens essayent de lutter. Enfin, face à l'horreur, il y a toujours. C'est bateau ce que je vais vous dire, mais j'y crois. Face à l'horreur, il y a toujours l'amour, et c'est comme ça qu'on tient.
Comment vous trouvez-vous votre inspiration pour développer des personnages comme ça dans un contexte là de Première Guerre mondiale, mais aujourd'hui avec l'actualité qu'on peut rebasculer aussi avec notre époque actuelle, vos inspirations?
La guerre en Ukraine n'avait pas commencé.
Oui, voilà. Évidemment, il y a 2 ans, oui. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est les filles qui vous inspirent aussi dans la manière de...
Non, je pense que c'est ce qu'il y a de noble chez l'être humain. Enfin, je répète, mais vraiment, hein, moi, ça a été mon moteur. C'est que ces 4 personnages m'émeut parce que elles sont là pour les autres. Camilou, ouais, qui est infirmière, qui pourrait fuir, mais qui fuit pas. Et qui reste par choix pour aider, parce que c'est dans son ADN, en fait, d'aider les autres. Alors qu'elle a tout à y perdre, effectivement.
Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est plus fort que tout? Parce que justement, on est dans une époque où la vie ne tient qu'à un fil, quoi. Et on se dit, bon, bah, on se raccroche aux personnes qui sont autour de nous. Peu importe leurs défauts et leurs casseroles du passé, on fait avec eux, on fait avec elles, en l'occurrence.
Enfin, parfois, il y a des situations qui sont tellement fortes qu'on en oublie ses peurs. Il faut être là pour l'autre, c'est du réflexe, c'est de l'instinct de survie, c'est de l'humanité, c'est...
On va parler sur le tournage. Comment est-ce que vous avez fait dans la chronologie du tournage? Parce que là, pour l'instant, nous, les scènes qu'on a vues, on les voit très rarement ensemble, les quatre filles. Je sais que dans les prochains épisodes, on va les voir quand même ensemble.
Oui.
Est-ce que aussi, dans la chronologie du tournage, vous avez respecté ça ou vous les avez fait se réunir dès le début? Elles se sont rencontrées à quel moment
Les actrices entre elles, vous voulez dire? Bah, il y en a trois qui se connaissaient très bien.
Les trois se connaissaient déjà.
Sophia commençait le tournage le premier jour de tournage, ouais. Donc elle a pu rencontrer Audrey. Voilà, après, c'est vrai que c'est bah, comme sur le bazar, en fait, c'est que bon, les deux premières journées de tournage, c'était l'extérieur du bordel, donc plutôt autour de Marguerite, de Marcel et un peu de Sophia qui passe une fois ou deux dans la série. Et après, on s'attaque à des blocs, donc c'était les extérieurs de Vite. Donc pendant, ça tombait bien, parce que du coup, Sophia, après ces deux premiers jours où on commençait avec Audrey dans les extérieurs bordel, on a passé deux semaines entièrement avec Sophia, sa problématique. Alors, mon angoisse, peut-être un peu la sienne aussi, c'est que comment tourner tout morcelé, que les extérieurs se tournaient dans les Vosges et que les intérieurs se tournaient à Paris, c'est qu'il y a des fins de scène intenses qu'on faisait et qu'elle est démarrée 5 mois plus tard. Il y a eu de commencer par... On le finit plus tard, on sait jusqu'où on a été. Donc voilà, c'était genre, je passe une porte, je suis en colère, je la rouvre, ça sera...
Faut que j'ai la même colère, quoi.
Voilà, c'est ça. Et on faisait la fin de la colère. Donc, fallait imaginer jusqu'où on pouvait monter... Et du coup, au bout de ces deux semaines, voilà, Sophia, on s'est rencontrés, ça s'est super bien passé. Les autres filles sont venues ponctuellement dans son décor pour les besoins narratifs de l'histoire. Et donc, au bout de deux semaines, Sophia était
pleinement
intégrée, tout à fait.
Et c'est quoi l'anecdote que vous pourriez raconter de tournage où vous avez les quatre filles avec vous sur une scène, j'imagine, ou peu importe, mais en tout cas, une anecdote où vous êtes tous ensemble, cette grande famille que vous avez créée autour du bazar, autour des combattantes et d'un troisième opus, peut-être.
En fait, l'aspect familial, il était... J'ai pas un moment préféré. On m'a déjà posé la question. Et je sais pas mentir. Et c'est le tournage qui a été dingo. Et j'arrive pas à choisir un moment de tournage plus qu'un autre. Peut-être, dans l'approche du travail, ce que j'avais jamais fait. Généralement, quand on tourne en province, moi, j'aime bien être dans une maison. Je rentre, je me coupe... où je suis en gîte avec mon chef-op et tout, ou quand je suis en région parisienne, je rentre chez moi et le réalisateur redevient papa, mari, tout ça. Et là, on tournait en région parisienne, mais pas assez proche de chez moi pour que je rentre tous les soirs, parce qu'on avait de grosses amplitudes horaires. Et on était à l'hôtel avec Sophia, Grégoire Collin et Sandrine Bonner. Et du coup, le soir, on se retrouvait dans l'une des chambres des trois, avec un petit verre de blanc et les scènes du lendemain. Il y a eu un truc magique dans ces réunions de travail, où on faisait les scènes, peut-être cette réplique, qu'est-ce que t'en penses? Ça, on l'a déjà dit. Peut-être si on disait rien, avec des propositions de chacun, ce qui donnait plus de temps, en fait. C'est-à-dire que le lendemain, quand on arrivait, on avait déjà passé 4-5 heures à bosser. Oui, il y avait un côté un peu magique. Je suis exigeant. Après, on se connaît, elles savent ce qu'elles ont à faire. Donc, et la façon dont je mets en scène, je pense, les met dans un cadre. Après, si elles sont pas d'accord, on en discute, ça évolue, je les convainc ou pas, et c'est elles qui me convainc. Mais j'explique, comme je bouge beaucoup, j'explique leur déplacement, elles se déplacent toujours avec une raison. Donc c'est vrai qu'après avoir expliqué d'où tu viens et tu vas là pour telle et telle raison et tu t'engueules avec lui ou tu souris, ou... Bah en fait l'intention de la séquence est donnée. Et peut-être qu'à l'intérieur, après, je peux dire à droite, à gauche, où elles me disent « Ah, j'avais pas vu ça comme ça, et, ah oui, comment ?»« Ah ok, moi j'ai besoin qu'un acteur soit, ou une actrice, soit en accord avec ce qu'elles font, avec ce qu'ils font. »
Oui, puis il participe aussi à la réflexion du personnage, peut-être.
Oui, complètement. Et après, voilà, j'ai une idée en tête et enfin, un film, ça doit être précis. Et après, il y a tout ce qu'un acteur apporte. C'est-à-dire que moi, je pense à des choses, mais si l'acteur ne l'a pas travaillé, s'il n'arrive pas avec une proposition, son caractère, son charisme, pas marche. Et non, les acteurs, je suis à fond avec eux, parce que pour moi, c'est le premier vecteur de l'histoire. Il y a le scénario, il y a comment il va l'interpréter, l'image, à la limite, ça vient après. Mais l'acteur, c'est méga, méga important.
Et justement, on va finir là-dessus. Vous avez réussi à créer tellement quelque chose de fort autour du bazar des combattantes que vous réfléchissez déjà à un troisième opus. On peut en dire peut-être deux mots, alors pas sur ce que c'est, etc., mais de l'envie de travailler ensemble, de tout ça.
Oui, l'envie est là. Iris avait déjà une idée en tête. En fait, le principe de... Enfin, ça devient une collection à partir du moment où il y en a un, deux, et qui, peut-être un troisième, c'est raconter un moment de l'histoire du droit de la femme en France. Donc on a commencé en 1897, on est passé... par la Première Guerre mondiale, avec tout ce qu'elles ont fait, parce qu'on... les milicionnettes, enfin, tout ce qu'elles ont fait pour aider pendant la guerre. Et on a en tête une autre période de l'histoire de France.
Un peu plus tard, du coup.
Tout à fait, un peu plus tard.
Et vous êtes prêt à repartir pour 2 ans et demi, ou ce sera un peu moins...
Je sais pas, ça va intense. Dépendre comment. Non, mais je pense que ça va être de toute façon... Alors, le bazar, c'était 1 an et demi, ça, c'était 2 ans et demi. Tout ouais. dépend quand j'arrive sur le projet... C'est des projets qui sont passionnants, qui demandent beaucoup de travail. Donc on est obligé de s'y mettre tôt, en fait.
Est-ce que vous pouvez me faire une recommandation culturelle, que ce soit sur des séries qui sont axées autour des femmes, comme celle que vous nous proposez aujourd'hui, ou alors une série qui vous inspire dans votre travail, dans la manière de mettre en scène
La Servante écarlate. Voilà.
Oh, bah,
moi,
très
c'est
bien.
Une série que j'ai vue, je me suis pris une baffe. Je ne suis pas quelqu'un qui... Enfin, j'en regarde, parce que bon, c'est mon métier, et évidemment, j'aime ça. Après, il faut avoir du temps. J'ai pas toujours ce temps. Je viens plutôt du cinéma, en fait, dans mes goûts. Enfin, je dis ça, et en même temps, je trouve que la série, aujourd'hui, est en train d'égaler, voire de dépasser, parfois. Enfin, il y a plus de honte. Avant, il y avait le cinéma et la télévision. Bah, j'ai refusé des projets de long métrage pour rester à la télévision, parce que je trouvais que c'était plus intéressant ce qu'on proposait à la télévision. Que du long métrage. Donc, pardon, vous avez dit, je suis bavard.
Pas de soucis.
La Servante écarlate, voilà, c'est une série que j'ai adorée.
Du coup, ça me permet de rebondir. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette série qui, je sais, est très puissante quand on la regarde en tant que femme? Et quand on a ce regard masculin, comment on la vit? Qu'est-ce qui nous touche?
L'injustice, la crédibilité du scénario, en fait, où on se dit que c'est de l'anticipation, mais qu'effectivement, on se projette très vite sur comment ça pourrait se passer si toutes les femmes devenaient stériles et que les riches avaient le pouvoir de pouvoir continuer de procréer. Et ça m'a dramatiquement touché parce que je me suis dit, putain merde, en fait, c'est assez crédible. Et après, je trouve que tout est brillant, mise en scène, jeu. C'est de l'anticipation, mais qu'il y a des femmes qui vivent ça encore aujourd'hui dans différents pays. C'est comme les combattantes, ça se passe en 14. Mais en vrai, ça pourrait se passer aujourd'hui en Ukraine. Il y a cette phrase je me rappelle plus trop de mes cours de philo quand j'étais au lycée, mais... Je me rappelle de cette phrase qui m'a marqué, que j'ai employée dans le bazar, genre, soit là, l'homme est un loup pour l'homme. J'ai l'impression qu'il y aura toujours des conflits, voilà, qu'on va se dire plus jamais. Moi, je suis un arrière-petit-enfant de quelqu'un qui était dans les camps de concentration. Mes parents ont grandi avec leurs parents qui ont connu
avec
la guerre.
Avec cette histoire-là,
ouais. Voilà, et c'est vrai que nos instituteurs, j'ai 46 ans, je devais avoir 10 ans en 86, nos instituteurs qui avaient donc connu la guerre enfant nous disaient plus jamais ça se passera. Voilà, la Deuxième Guerre mondiale, on a atteint le sommet de l'horreur, les guerres de religion, la guerre de 100 ans, protestants, catholiques, en Angleterre, fini. Maintenant c'est le monde des sciences et il y avait cette utopie, à l'époque on ne savait pas. Naïvement, on a 10 ans, on y croit, jusqu'à 20 ans, on est plein de pulsions de vie, on ne fait pas attention. Puis un jour, il y a le Bataclan, il y a Charlie, ouais. Puis ça arrive près de chez nous. Donc on ouvre un peu plus les yeux, on se rend compte que ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Bah, les combattantes... On le fait, il y a la guerre en Ukraine qui éclate derrière.
Ouais.
Et je sors cette phrase, l'homme est un loup pour l'homme, j'ai l'impression qu'il y a de l'autodestruction. Mais ce qui est beau, c'est que face à ça, il y a des gens comme nos 4 héroïnes qui se lèvent et qui font face.
La puissance humaine.
Mais la puissance dont on parle tout à l'heure, c'est vrai que pour moi, elles sont unies par ça, par l'entraide, par la sororité, par l'humanité.
Merci beaucoup Alexandre Laurent pour votre honnêteté. Et puis on a hâte de découvrir tout ça, donc ce sera à la rentrée. Quand l'épisode sortira, on saura la date de diffusion, donc j'en dirai un peu plus. Merci en tout cas pour votre honnêteté.
Merci à vous pour vos bonnes questions. À très bientôt.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, je t'invite à prendre 2 petites minutes pour laisser un avis et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et Podcast Addict. Les commentaires font toujours chaud au cœur et surtout, en plus de me faire du bien, ils font du bien à l'algorithme pour faire découvrir Friendship au plus grand nombre. Et puis si tu veux découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram. En attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.